marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
À l'époque, ils faisaient comme ils pouvaient. La première fois, ça fait toujours un peu étrange. Mais on s'y fait vite. Tu vas voir.
Les reconstituteurs de combat.
Saloé, quel est ton nom ?
Saloé, je m'appelle Sextus Iurius Gonius et on est parti pour l'aventure.
Quel est ton nom ?
Lucius Titus Vacarius.
Quel est ton nom ?
Gaudium Farinis Probis.
Ce matin, Guillaume Staub devient Germanicus. À 20 ans, il est étudiant en histoire. Avec ses amis légionnaires romains, il va jouer dans une reconstitution historique. Ses représentations connaissent un véritable succès. Waterloo, Marignan, les courses de chars, Jeanne d'Arc, ou encore le débarquement américain. En France, elle mobilise des passionnés.
Les origines immédiates des mouvements de reconstituteurs de combat sont à rechercher du côté des États-Unis et du Royaume-Uni. Dès les années 1960, on y a repris les batailles de la guerre de Sécession ou celles des armées de Cromwell et de Charles Ier. La France a été gagnée plus tardivement, mais aujourd'hui, on ne parvient plus à compter les groupes d'amateurs. Ils sont des centaines. Les reconstituteurs romains sont légion. Les Gaulois doivent être fatalement aussi nombreux. Le Moyen-Âge attire encore davantage. Puis vient évidemment l'époque révolutionnaire et impériale. Les deux guerres mondiales mobilisent beaucoup. On ne va pas s'en étonner. La tendance est cependant la diversification. Quelques Mérovingiens, par exemple, viennent de surgir de la nuit des temps. La reconstitution de combat n'a pas exactement les mêmes fonctions que les fêtes de restitution de la vie ancienne qu'organisent depuis très longtemps villages et villes. Le Puy du Fou n'est pas non plus le modèle. Néanmoins, dès lors que les groupes en viennent à donner des spectacles, ils sont gagnés par une certaine professionnalisation. Le goût qu'ils cultivent pour la précision, la justesse les y prépare. En avril, à Nîmes, chaque année, ils sont 500 et ils savent maintenant recevoir et retenir dans les arènes plus de 30 000 spectateurs. La reconstitution, c'est une manière nouvelle de vivre l'histoire pour les générations qui n'ont pas connu les guerres. Mais l'aspect sportif est important et le ludique le dispute au didactique. Ça a toujours été excitant de jouer aux morts.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Bien vivant Éric Tessier, bonjour.
Bonjour.
Vivez l'histoire, c'est le thème du festival Historia auquel vous participerez ce week-end, ainsi que plusieurs émissions de France Inter. Alors, je rappelle quand même que vous avez un pédigré, il ne faut pas plaisanter, beaucoup de livres, Spartacus, Pompée, bientôt Commode, Commode qui aimait bien les gladiateurs, aussi, chez Actes oui. Sud, dossier gladiature. Et alors, vous avez fait votre HDR, alors traduisons HDR.
Habilitation à diriger de recherche, en fait c'est la thèse des temps on va dire.
Oui. Vous avez fait votre HDR qui a été publié donc sous le titre dossier gladiature, avec des méthodes d'archéologie expérimentale.
Oui. Alors, l'archéologie expérimentale, là aussi, ça date, ça a quelques années déjà. Hein. On peut même dire que Napoléon III était le père de l'archéologie
Comment
expérimentale.
Comment ça, Napoléon III
Il s'intéressait beaucoup à César, d'où le césarisme. Il s'intéressait aussi beaucoup à nos ancêtres les Gaulois, c'est lui qui a inventé ça. Fouille archéologique à Alésia, à Gergovie. Et puis bon, il y a des éléments que les textes ne nous disent pas. Par exemple, la portée des balises, des scorpions. Et donc, il a fait faire à ses officiers du génie, qui ont été un peu surpris peut-être, mais il leur a fait refaire des balises, des scorpions. Il a même fait refaire une galère qui a vogué sur la Seine. Donc alors, il avait cet esprit-là.
Quand on rame sur une galère, le corps peut être observé, ses mouvements, ses postures.
Le corps n'a pas changé depuis 2000 ou 20 000 ans, puisque nous sommes toujours des Cro-Magnons. Ils n'étaient pas des surhommes, contrairement à l'idée qu'on peut avoir. Et donc, refaire le geste permet de comprendre les techniques, permet de comprendre beaucoup d'éléments donc, sur la vie de nos ancêtres que les sources écrites ne nous ont pas permis de connaître.
Alors, exemple, dossier gladiature. Vous avez des documents épigraphiques, les inscriptions, des textes littéraires, des objets, des images.
Beaucoup d'images, notamment l'iconographie est importante. Moi, j'en ai fait le corpus. On est à 1500, 1600 images de l'époque. Et souvent, on met au-dessous de ces images combat gladiateur, point. Moi, j'ai vu autre chose parce que justement, par rapport à l'expérimentation, par rapport au combat, j'ai pu voir que ces images étaient très techniques, étaient très précises, c'était des instantanés à chaque fois.
Donc, vous donnez un équipement, vous harnachez vos étudiants et vous observez leur comportement.
À l'époque, donc, j'étais moi-même le cobaye. Ah, donc, après, il y a un âge pour tout. Mais disons que j'ai transpiré sous le casque du sécouteur. Mais c'est important parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses. Et c'est un éternel, finalement, balancement entre l'expérimentation, des questions auxquelles on répond, et beaucoup de questions qui se posent, des interprétations nouvelles sur les sources, et notamment sur les images, qui permettent de voir des détails qu'on n'avait pas vus, et de revenir sur l'expérimentation, c'est ça.
Mais donc vous avez été le cobaye. Oui, il y a toujours un aspect, je ne veux pas dire narcissique, mais enfin on aime bien se regarder dans la glace quand on est reconstituteur.
Oui, enfin quand on est rétière, hein, parce qu'autrement quand on est sécouteur, on a plutôt la tête d'un robot avec une espèce de casque horrible. Donc j'essaie justement d'éviter ça. Certains, évidemment, tombent là-dedans, dans le narcissisme. Moi, je veux dire, peut-être c'est des formations professionnelles du professeur. C'est plutôt le côté didactique, le côté recherche qui m'intéresse.
Enfin, votre entreprise a pris de plus en plus d'ampleur, se déploie au mois d'avril chaque année dans les grands jeux romains, dans les arènes de Nîmes. Et vous êtes là, on va vous entendre, dans le rôle du leader. Je ne sais pas si c'est un mot d'époque.
C'est pas le mot de l'époque, non.
Je propose un combat sin émission, sans grâce, sans merci. Un combat à mort. Pour cela, je triple la prime pour le vainqueur en or, en pièces d'or. Ça les motivera. Le combat a donc double objectif, la richesse et la liberté. C'est un combat à mort. Comme au temps archaïque, que les équipes s'avancent.
Ben vous pouvez, Éric Tessier, tripler la prime, parce que maintenant vous travaillez avec une entreprise puissante, Culture Espace. Alors ça se passe dans les arènes, ça c'est très important.
C'est très important. Pour moi, c'est le premier acteur. C'est vraiment cet amphithéâtre qui est le mieux conservé du monde romain, donc où on peut justement avoir jusqu'à 12 000 personnes. Là, on m'a entendu et on entendait le public, et il y avait 12 000 donc, spectateurs, on a fait ça 3 jours de suite. Et l'idée, voilà, c'est de faire revivre ce monument, et on n'aurait pas du tout la même interaction avec le public si on faisait ça dans un stade de foot. Donc il y a cet élément-là de la reconstitution, donc parce que là, on a parlé d'expérimentation, là on est dans la reconstitution, donc c'est-à-dire de faire revivre une époque le plus honnêtement possible et avec aussi de l'humilité, et donc pour faire comprendre concrètement aux gens comment les choses pouvaient se passer. Alors là je ne suis pas le leader, je suis plutôt l'éditeur, c'est-à-dire celui qui offre un combat donc au public.
Alors maintenant on va voir Éric Tessier prendre un uniforme de simple grenadier, abandonner la tenue du chef, parce que sur le tard, vous vous êtes trouvé une vocation impériale, mais au début de votre carrière, vous aviez aussi travaillé sur la Révolution et l'époque suivante.
Parce que ma première thèse était sur la Révolution et l'Empire, bon, une approche économique et sociale, les biens nationaux. Mais j'ai toujours été passionné aussi de cette période. Et donc, après être passé, mais j'en suis pas sorti, par l'Antiquité. Donc, je reviens donc aux sources impériales.
Le canon.
Je vais t'apprendre les rudiments pour essayer de faire en sorte que tu survives le plus longtemps possible. Pour la charge en 12 temps. Chargez.
Oula, pardon.
C'est maladroit, grenadier, mieux vaut.
Commence pas bien.
Ouvrez. Net. Ouvrez le bassinet.
Le bassinet, c'est ça. Voilà.
Prenez. Push. Qui correspond à prenez la cartouche. Tous les ordres sont abrégés. Corrige tes pieds et tu portes ta cartouche à la bouche.
Une cartouche à la bouche?
Oui, tu vas devoir la déchirer.
Ah, c'est ça? Non, rien.
Déchirer! Ouch! Voilà. Tu portes la cartouche à ton bassinet. Amorcer! Tu verses un peu de poudre noire dans ton bassinet. Les trois doigts de ta main droite.
J'ai essayé de tout retenir, mais c'est...
Oui. Mon fusil.
Je vais le lâcher.
Fermer. Net! Arme gauche! Tu fais un basculement.
Oh là là.
Non. Ton arme est à l'envers, voilà.
Une émission d'Arnaud Poivre d'Arvor et Serge Tinière sur France 5. Pas facile de redevenir un homme du rang.
Eh oui, c'est le chargement en 12 temps, 18 mouvements du fusil 1777 modifié en 9. Je connais bien ça. Donc c'est, non, c'est pas facile, mais c'est aussi très intéressant. C'est-à-dire que ça permet de voir les choses concrètement à la base.
Alors vous êtes un homme très occupé. Tout à l'heure, avant que vous ne rejoigniez Historia Strasbourg, vous allez tenir une réunion sur Waterloo. Vous aimez bien participer à des reconstitutions impériales in situ, Austerlitz.
Oui, j'ai eu cette chance-là, oui, d'être en 2016 sur le champ de bataille d'Austerlitz, vraiment dans les lieux mêmes où sont joués les éléments importants, les actions importantes de la bataille. Et j'étais pas tout seul, on était un millier, quoi. Donc un millier de reconstituteurs, à peu près autant de coalisés austro-russes et de français, avec cette particularité que sur les 500 français en uniforme, eh bien, le Napoléon était américain et que nous étions seulement 5 Français de France. Donc ça prouve que ça dépasse les frontières. Je me suis retrouvé à discuter avec un Polonais habillé en russe, moi en français, et on a discuté en italien parce que c'était la seule langue qu'on comprenait tous les deux. Donc voilà, il y a ce côté aussi international, ce côté aussi de faire revivre les lieux de mémoire, puisque c'est de ça dont il s'agit. Il n'y a pas un côté, on va dire, de revanchard ou cocardier là-dedans, pas du tout, la preuve. Donc sur les 500 Français, la plupart étaient tchèques. Donc,
remarque semblable dans le livre de Jean-Paul Kaufmann qui s'est retrouvé in situ à Eylau au moment de l'anniversaire de la bataille d'Eylau avec évidemment une présence russe extrêmement importante. Ce qu'on va entendre ici vient de Brienne-le-Château dans l'Aube, l'école militaire où a été formé le jeune Bonaparte et où vient d'ouvrir un musée Napoléon. Eh bien, figurez-vous que les gens qui sont là, rampants, mouillés, trempés, ce sont des GI de la Deuxième Guerre mondiale, et ils sont reconstitués au pied du château de Brienne, un combat du Pacifique.
On s'approprie, on va dire, le rôle d'un GI, mais lambda, qui n'a pas existé, ou alors, on va dire que ce serait un petit peu comme dans les films, c'est toute ressemblance avec une personne ayant existé. Donc ce n'est pas, c'est jamais une personne qui a existé.
Alors, sur vos plaques, vous avez des plaques autour du cou?
Donc là, vous avez le nom, le matricule de la personne, la date de vaccination par rapport au tétanos et du rappel. Ensuite, vous avez le groupe sanguin et la confession, les origines, en fait, s'il croit en Dieu ou pas, ou s'il est athée ou autre.
Donc, le caporal Martin, surnommé l'Indien.
Eh bien, moi, je suis donc le chef de la premier squad, sergent Loraire. Il s'agit, moi, pas d'un pseudo, mais je me suis mis dans la peau d'un immigrant allemand aux États-Unis qui a fui le nazisme au début de la guerre.
Oui, quand il s'agit des reconstitutions de la Deuxième Guerre mondiale, qui va tenir le rôle du soldat de la Wehrmacht? Là, on entend un GI qui est un juif allemand qui combat le nazisme. Qui va tenir le rôle des Waffen-SS ou de la Gestapo?
Alors là, on aborde un autre sujet. C'est vrai que la Seconde Guerre mondiale, dans la reconstitution, existe, elle est même importante. Elle a posé justement ce problème-là, et elle le pose toujours, c'est-à-dire d'incarner ce qui est difficile à incarner, c'est-à-dire l'ennemi, la Wehrmacht, le nazisme, les SS. Alors, ce que je constate, c'est vrai que bon, il n'y a pas de problème. On a toujours eu beaucoup de groupes qui ont fait les États-Unis, les Français, bon, pour 44, pour la libération, tout va bien. Depuis quelque temps, on commence aussi à voir quelques reconstituteurs qui font de la Wehrmacht, qui font généralement très attention à cet aspect un peu sensible, c'est-à-dire que, bon, j'ai pas vu, en tout cas, bon, ça me plairait moyennement de voir des reconstituteurs de la Waffen-SS, parce que là, ça incarne autre chose.
Par contre, moi, j'en ai vu à Aix, dans des journées consacrées à la libération, ouais, auxquelles nous avons participé. Il y avait même les agents de la Gestapo en traction avant noir qui circulaient dans Aix. Et me demande si ceux qui portaient ces imperméables n'y prenaient pas un certain plaisir.
C'est la question qu'on peut se poser. Après, c'est la question justement de la reconstitution en tant que devoir de mémoire. Difficile d'incarner, de rappeler aux gens que ça intéresse, mais qui n'en font pas partie, d'incarner la 1944 sans qu'il y ait d'Allemands. Ça voudrait dire que, bon, finalement, tout ça était une sympathique promenade de santé. Donc, il est, je pense, important d'incarner ça avec, évidemment, toutes les réserves qui s'imposent. Ça devient possible, je pense, aussi du fait que les gens qui ont vécu cette période-là commencent malheureusement à disparaître, mais c'est le sort commun. Ce qui était impossible, je dirais, il y a 20 ou 30 ans, moi, mes grands-parents avaient connu les deux guerres, pour mes deux grands-pères. Ils auraient très mal vécu que je fasse du Seconde Guerre mondiale en allemand. Ça commence à devenir plus facile parce que les gens comprennent qu'il y a là un côté didactique et pas forcément, et pas du tout, même généralement, un côté idéologique.
Sans prétention scientifique, Éric Tessier, 1, 2, 3 portraits de reconstituteurs, parcours sociaux divers.
Des parcours sociaux, c'est l'intérêt justement de ce milieu-là, de la reconstitution, où on retrouve des origines sociales extrêmement différentes qui sont complètement effacées justement sous la tenue ou sous l'uniforme. Par exemple, Daniel Pirosa qui est un transporteur routier qui a repris l'association qu'avait créé son frère après le décès de ce dernier, et qui est une association donc de légionnaires, de vie romaine, c'est l'Orica Romana. C'est une association à laquelle je participe et qui est quelqu'un qui s'investit énormément là-dedans. Je pourrais citer Walter Hocher, qui était un ancien visiteur en pharmacie, qui s'est beaucoup investi là aussi dans la constitution d'un groupe, le Champ du Départ, qui fait lui-même les uniformes du groupe avec un grand soin du détail, lui qui était un ancien rugbyman du sud-ouest. On n'imaginerait pas le voir donc avec sa machine à coudre, mais et qui fédère autour de lui, c'est ces gens qui sont à la tête de ces troupes et qui comptent pas leurs heures et leurs journées, mais qui fédèrent beaucoup de gens.
Et Serge.
Ah, Serge Andover, qui lui a reconstitué carrément un sous-marin allemand dans son garage, et qui intègre ça à un jeu finalement d'immersion, c'est le cas de le dire, et de stratégie donc sur la bataille de l'Atlantique. Lui, son métier, c'était de fabriquer des arbalètes, vous voyez, ça vient à tout.
Alors on est plutôt dans la bataille du Pacifique ici.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Comment on peut accepter que des séries américaines, des films mettent des millions pour faire quelque chose d'historiquement faux, alors que ça coûterait pas plus cher de mettre les bonnes armures, les bons gestes?
Les reconstituteurs de combat, ils seront très présents au festival Vivez l'Histoire Historia qui commence demain matin, auquel nous serons présents ainsi que d'autres émissions de France Inter en public demain. Alors Éric Tessier, on l'a entendu ici, l'argument de la précision avec une pointe d'anti-américanisme, c'est quand même autour de la reconstitution des combats de la guerre de sécession, oui, très photographié,
tout à fait.
Que le mouvement est né.
Bon. Absolument.
Alors, la précision, l'exactitude, la maniaquerie parfois,
oui,
au-delà parfois, de la minutie.
Oui, ça va jusque-là. Après, bon, peut-être c'est le fait justement d'avoir fait des études en histoire. Si j'ai appris une chose, c'est peut-être aussi l'humilité. C'est très difficile de savoir comment les choses se sont passées vraiment. Et quand on reconstitue, voire quand on expérimente, je pense qu'il faut toujours avoir en tête cette humilité-là. Parce qu'il y a toujours une grande distance entre l'image que l'on peut avoir de ces époques, entre les règlements, quand on en a, c'est le cas pour le Premier Empire, qui nous donne une image souvent idéalisée des choses, qui ont parfois jamais vraiment existé. Donc, c'est-à-dire l'idée de légionnaires qui seraient tous identiques, un peu comme des Playmobil. Moi, je suis pas tout à fait convaincu par cette
idée. Il n'y avait pas d'uniforme du côté romain.
Vraiment, l'idée de l'uniforme, c'est Louis XIV qui met ça en place avec l'État royal. À l'époque romaine, on peut parler d'équipements qui sont cohérents, c'est-à-dire ils ont tous le même type de bouclier, ils ont tous la même longueur de glaive, parce que ça suppose un entraînement au combat. Après, le casque, bon, on prend celui qui est le plus efficace, ce qu'on a pu même retrouver sur le cadavre d'un Gaulois quand on est romain. C'est comme ça d'ailleurs que les Romains font évoluer leurs armements en empruntant toujours à leurs adversaires. Donc l'uniformité, il faut ça.
Oui, mais là, vous parlez en spécialiste du monde antique. Quand vous vous transformez en soldat du groupe Le Champ du Départ, époque absolument révolutionnaire ou époque impériale, là, il y a des uniformes.
Il y a des uniformes, il y a même des règlements, mais ce que l'on voit aussi sur, par les récits, parce qu'on a beaucoup de récits de soldats de cette époque-là, contrairement à l'époque romaine, quand on voit des gravures, ben, on voit que, surtout pour l'époque révolutionnaire, c'était un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je suis un soldat de la Révolution, je porte un gilet rayé civil, parce que c'est ce qu'ils faisaient. Les boutons aussi, ben, on a retrouvé des corps de soldats de l'Empire qui avaient des boutons qui venaient d'un peu partout. Donc il y a ça aussi, il faut comprendre qu'une armée en campagne n'est pas forcément une armée qui défile aux Tuileries sous l'arc du carrousel, où là tout est parfait. L'armée en campagne, elle, justement, ben, elle s'adapte au terrain. Donc ça, c'est un élément important, à mon sens, de la reconstitution à présenter.
Les maniaques, c'est pas très aimable pour les élèves de l'école des chartes, les maniaques pour les reconstituteurs du Napoléon Premier Empire sont appelés les
chartistes. Donc, c'est vrai que parce que justement, ils sortent les documents, les vieux grimoires. Bon, après, c'est tout à fait louable d'essayer d'être très précis. Il faut quand même avoir cette humilité.
Oui, la guerre, ça se fait à la fortune du pot. Oui. Vous vous souvenez, Brienne le Château, l'école militaire de Bonaparte, transformée en jungle du Pacifique.
Les soldats dormaient par deux sous des tentes, puisque chacun transportait une moitié de tente. Donc ça, c'est un modèle 42, et à côté, on a un modèle 43. Donc le modèle 43, il se différencie par pas grand-chose, simplement, les deux côtés sont fermés.
Et alors ce camp, c'est une reproduction à l'identique.
Alors, on est quand même assez proche de ce qu'on pouvait voir, ça ressemble assez à un camp proche des camps de Manouche.
Là, il y a 3 semaines, 60 cm d'eau. Hein. Comme à l'époque. Hein. Tous les caillebotis flottaient. Là où il y a la mitrailleuse, ben, on voit, hein, il y a encore les traces de la hauteur d'eau. Hein. Dans la casemate de l'officier, le lit superposé, le lit du bas, ben, il flottait. Des fois, on fait des week-ends avec les copains de l'association. Et on dort dans la tranchée, dans la casemate de l'officier et tout. Et on se remet vraiment dans les conditions de l'époque.
Alors à Brienne, la jungle était devenue un camp de manouche, documentaire d'Anna Lefkowitz, France Culture. Et puis, ce qu'on vient d'entendre, c'est Fanny au micro de Charlotte Perry, là-bas si j'y suis, France Inter. Cette dame a reconstitué dans son jardin du Vaucluse une tranchée de la guerre de 14 de 37 mètres. Et là, c'est quasi un bidonville à l'entendre.
Ben oui, là, c'est justement, on voit l'aspect, l'envers du décor, quoi. C'est pas justement une guerre proprette, comme on pourrait des fois la voir un peu aseptisée au cinéma. Enfin bon, même si ça a changé, le cinéma évolue là-dessus. C'est la réalité du combat, puis surtout de la vie du fantassin. Après, il faut voir le but que l'on recherche. On peut être justement dans, entre guillemets, le jeu de rôle et vraiment de s'immerger soi-même dans un contexte. Après, il y a aussi l'aspect, moi, c'est ce que j'essaie de voir le plus possible. L'aspect du partage, du didactique, d'expliquer donc
oui,
un peu la réalité des
c'est
choses.
C'est aussi le sport viril.
Ah bah oui, c'est sûr que bon, c'est
la fatigue,
la fatigue,
l'éreintement.
Oui, c'est important. Je pense que pour un historien, bon, disons de l'époque impériale, de l'époque napoléonienne, de porter le sac à dos, d'avancer dans un champ labouré avec devant soi bah, plusieurs lignes de soldats.
Mais vous faites ça à votre âge ?
Oui, mais je suis bien conservé pour mon âge. Ça entretient la reconstitution. Charger le fusil, voir qu'il part ben, quand il veut bien, quoi, parce que c'est toujours aléatoire. Donc tout ça permet de comprendre vraiment. Donc une certaine réalité de l'histoire. Et je pense que ça influe aussi ma façon d'écrire l'histoire, hein, c'est-à-dire une façon très pratique et très...
On a entendu Fanny, qui reconstitue donc une tranchée de 37 mètres. Je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de femmes dans le milieu.
Ça commence à venir, c'est-à-dire qu'il y a, notamment dans les groupes celtes, il y a beaucoup de guerrières gauloises, c'est une réalité.
On va bientôt avoir des groupes d'Amazones.
Oui, certainement, mais pourquoi pas, hein, nous, les légionnaires romains seront les matés.
Les contenir,
enfin je sais pas, on verra, ça sera un combat corps à corps certainement. Dans les troupes même napoléoniennes, on trouve aussi des femmes, bon, faut les distinguer, hein, sous le bonnet d'ourson, elles cachent un peu leur féminité, mais non, c'est pas totalement interdit aux femmes.
On entendra Fanny poser des questions judicieuses dans un instant, mais Tranchée, Verdun, vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé avec une dame qui était sous-préfète à Verdun, justement ?
Alors ça pose un problème qui agite pas mal le monde de la reconstitution, de l'histoire vivante actuellement. Ben, en fait, c'est une directive européenne que l'on veut faire passer dans le droit français, qui amènerait pratiquement à faire disparaître tout transport d'armes, de reproduction d'armes démilitarisées, parce que toutes ces armes, évidemment, sont des armes démilitarisées, quand je parle pour le XXe siècle.
Neutralisées.
neutralisés, hein, qui sont absolument incapables de pouvoir tirer.
Mais pas factices.
Alors certaines sont factices, certaines sont reproduites. Bon, nos glaives de gladiateurs, c'est de légionnaires, sont factices.
Et donc vous accusez l'Union européenne de vouloir empêcher les citoyens de se faire la guerre entre eux.
Non, d'évoquer justement la guerre, parce que quand on connaît pas les erreurs du passé, on risque de les reproduire. Ouais. Ça sert aussi à ça, l'histoire vivante, parce qu'il y a aucun, en tout cas moi dans ce que j'ai connu, il y a aucun militarisme, et de vouloir justement enlever ces armes, cacher ces armes que je ne saurais voir, alors qu'elles sont factices et qu'elles sont dans un but justement d'histoire et de patrimoine, c'est très dangereux parce que ça.
Qu'est-ce qu'elle a fait, la sous-préfète ?
Alors, elle a interdit justement, dans une commémoration de la guerre de 14 dans la Meuse, de pouvoir défiler avec les fusils, le bel et autres. Du coup, les reconstituteurs, pour montrer leur mécontentement, ont défilé avec des balais. Je pense qu'il était une très bonne initiative, et je pense que ça serait vraiment dramatique si cette directive passait, parce que ça serait un peu la mort de beaucoup de manifestations d'histoire vivante.
Alors, j'ai promis Fanny qui pose quelques interrogations auxquelles vous allez répondre.
Et les historiens, ils voient ça de quel œil, les reconstitutions, tout ça ?
Je ne vous répondrai pas à cette question. On n'a pas du tout la même conception de l'étude de l'histoire. Moi, pour eux, malgré que j'ai un doctorat, je ne serai jamais historien. Parce que je n'aborde pas du tout l'histoire de la même façon qu'eux.
Un doctorat en histoire, quand même ?
Ah oui. Je l'ai eu il y a un an et demi, deux ans. Il y en a pour beaucoup, on doit aborder l'histoire sur un banc de l'école avec des livres et on ne doit pas sortir de là. Mais il faut sortir de là. Il faut sortir de là. Si on veut intéresser nos enfants, ne serait-ce que un temps soit peu, et arriver à leur apprendre un maximum d'informations en un minimum de temps, il faut sortir de ces livres. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, l'histoire, ça me gonflait. L'histoire dans un livre, ça me saoulait. Je détestais l'histoire. Des livres, c'est abstrait. Et là, il est vraiment temps qu'on me file un coup de jeunesse là-dedans.
Ah ben, Fanny, elle, c'est une voisine. Je la connais pas, mais il faut qu'elle se rapproche de moi, puisqu'on est voisins.
Vous voulez faire fédération lutter contre la réglementation.
À un moment donné, il faut s'unir, quoi. Même si c'est un monde qui est assez cloisonné, assez individualiste. Mais bon, il faut s'unir. Par contre, donc Fanny, oui, elle est à côté de chez moi, dans le Vaucluse. Moi, je suis dans le Gard. Elle a raison. C'est vrai que souvent, les historiens restent dans leur fauteuil, le confort des bibliothèques. C'est ce qui est indispensable. Il n'y a pas de livre sans histoire. Mais il y a certains historiens, je pense que c'est Fanny parle comme ça parce qu'elle me connaît pas, qui essayent justement de sortir justement de l'université. Et il y a aussi beaucoup d'étudiants, et moi je le vois avec mes étudiants d'histoire de l'université de Nîmes, qui s'intéressent à ces nouvelles formes d'histoire, qui seront justement évoquées tout ce week-end à Strasbourg au Festival Historien, qui montrent que effectivement l'histoire c'est quelque chose de vivant pour moi. Je suis très attaché à cette notion d'histoire vivante.
Je comprends que vous militiez contre la méfiance entre universitaires et amateurs. Juste quand même une question naïve. Pourquoi ne reconstituez-vous que des batailles ? Vous pourriez reconstituer, moi je sais pas.
Je suis très mauvais
dans... réunions de la Commune de Paris, une grève...
reconstituer...
Philippe de Villiers, il a reconstitué la vie d'une famille paysanne.
Ah, mais c'est très bien, mais ça c'est tout à fait dans le même monde. Hein. Moi je cite souvent en exemple le cas du château de Guédelon, qui est une merveille en ce sens, à la fois de reconstitution et d'archéologie expérimentale civile. Il n'y a pas de chevalier dans ce château de Guédelon, en tout cas pas pour l'instant. Mais oui, il y a tout cet aspect-là. Alors après, c'est vrai, j'aurais pu reconstituer la vie civile. C'est-à-dire que je suis très mauvais danseur, donc refaire les balles à Versailles, ça n'aurait pas été vraiment dans mes capacités.
Oui, mais enfin, peut-être le quadrille paysan. Mais
peut-être, oui.
Vous aimez bien tomber comme si vous étiez mort. Jouer à être mort.
Oh, jouer avec mort. Vous savez, dans les grands jeux romains, il y a une phrase qui est devenue un peu mythique. À la fin, donc, on reconstitue toujours une bataille, puisque chaque année, il y a une thématique, et on évoque les batailles du passé, comme les Romains pouvaient le faire déjà. On reconstitue une reconstitution. Et à la fin, donc, le praeco, le crieur public, va dire que les morts se relèvent. Et donc, tous les morts qui sont sur le champ de bataille se relèvent pour bien montrer aux enfants que, il ne s'agit évidemment que d'une reconstitution à but, finalement, didactique, et que, bon, voilà, on joue aux morts, mais on joue peu de temps. Il y en a aussi certains qui ne veulent pas faire les morts, donc ça c'est un peu difficile.
Vivez l'histoire, ça veut dire relever les morts. On a trouvé une devise pour le festival Historia de demain, où nous retrouverons nos éditeurs à Strasbourg, au Palais des Congrès. L'émission a été préparée par Frédéric Martin, Gilles Gaillard à la technique, la réalisation c'était Audrey Ripouille. Et chez vous, encore un mot que je ne connais pas, monsieur.
Mais jusqu'ici, quand on parlait du cerveau, on parlait des neurones, Jean. Eh bien, ce sont les autres cellules, elles sont même encore plus nombreuses, les cellules gliales.
Comment écrivez-vous ça ?
C'est très important, GLIALE.
S. S, l'orthographe.
Elles sont nombreuses.
Il est 14h, vous écoutez France Inter.